L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Depuis quelques années, et d'autant plus depuis quelques mois, on parle de plus en plus de la Chine comme modèle, en particulier sur l'écologie et parfois sur la gestion des data, avec sans doute une peur qu'on a d'un régime autoritaire. Et en même temps, il y a des différences culturelles majeures entre la Chine et de manière plus générale l'Asie, et puis l'Occident, et plus spécifiquement les États-Unis. Et aujourd'hui, je reçois Laurence Lim Daly, qui est une experte autour de la diversité et sur le décodage des différences culturelles. Elle va vous montrer dans cette conversation qui est passionnante comment on a une vision très universaliste depuis la France et tous les biais cognitifs qu'on peut avoir sur la compréhension de la relation homme-femme, sur ce qu'est la beauté, ce qu'est la réussite, sur le rapport à l'écologie. C'est, encore une fois, je trouve vraiment passionnant de s'intéresser aux cultures différentes et de se rendre compte de ses propres biais. Je pense que c'est une marche nécessaire, indispensable, pour pouvoir s'ouvrir au monde et comprendre l'évolution qu'on est en train de traverser tous ensemble. Je vous souhaite une bonne écoute. Allez, Volant, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Laurence.
Bonjour.
Donc, Laurence, tu es à New York.
Ouais.
Donc, on est à distance. Et je suis ravi d'enregistrer cet épisode avec toi parce que on parle beaucoup, beaucoup, de plus en plus en tout cas, de la Chine. Évidemment, depuis l'Europe, depuis la France, on parle aussi beaucoup des États-Unis. On voit bien que culturellement, la Chine est en train de prendre de la place et le modèle chinois est en train de prendre de la place par rapport au modèle occidental. On peut penser à TikTok entre autres, mais je vois Alibaba, je vois beaucoup de grosses... la manière dont la Chine envisage le business, mais aussi l'écologie, mais aussi... Et en fait, on se rend compte qu'il y a des différences culturelles qui sont majeures et que nous, Européens, on ne comprend pas nécessairement, par exemple, dans le rapport homme-femme. En fait, ça peut être à plein de niveaux. Et je voudrais qu'on parle ensemble de ce sujet, des différences culturelles. Donc, peut-être que la première question et qui touche un petit peu tout le monde naturellement, c'est justement ce rapport entre les hommes et les femmes et le rapport au féminisme en Chine.
Ouais, alors c'est tout à fait vrai qu'il y a encore une grande, je trouve, méconnaissance de la Chine, et ce qui est un paradoxe parce que aujourd'hui, pour plein d'entreprises, la Chine devient leur premier marché. Si on prend l'industrie du luxe, c'est 90% de la croissance du luxe, ou des boîtes comme L'Oréal qui font quasiment toute leur croissance en Chine. Et pourtant, la Chine, ça reste un peu ce continent noir. Hein. Et où les entreprises et puis même les gens, je pense les Français, les Américains en particulier, ont du mal à comprendre les Chinois parce qu'il y a très peu de soft power. Il y a plusieurs raisons. Il y a pas beaucoup de soft power en Chine, donc c'est vrai qu'on n'a pas tellement accès à, je sais pas, la musique chinoise. Je connais personne autour de moi qui regarde des séries télé chinoises. Et puis je pense que c'est un continent, ça s'explique aussi par l'histoire, parce que c'est un continent, c'est un pays continent qui est resté fermé à l'Occident quasiment jusqu'au 19e siècle, et puis qui aujourd'hui reste très fermé. Hein. Il y a un écosystème Internet proprement chinois, il y a la barrière de la langue, et qui fait que voilà, ces différences culturelles, elles sont un peu au carré, et on a besoin de plus en plus de décoder la Chine pour adresser la Chine. Enfin, je parle du point de vue des entreprises.
Bien sûr. Et puis surtout, enfin, je crois que même en tant qu'individu, on va avoir, en France, en Occident de manière générale, un impact de la culture chinoise sur nos vies, en fait. Enfin, quelque part, je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien conscience de ça, mais je crois qu'il va y avoir nécessairement... Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de leaders mondiaux, comme on a pu le voir avec l'impérialisme américain qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Mais on voit, du coup, des zones, et la Chine, évidemment, est en position prioritaire pour ça, qui sont en train, sans doute, de reprendre ce lead mondial. Et donc, ça va avoir des conséquences sur nos vies, potentiellement.
Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de un peu du choc des civilisations et de du fait que est-ce que la Chine va devenir le nouveau modèle civilisationnel. On en parle beaucoup depuis la gestion de la crise du Covid, etc. Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, je suis pas politologue, je sais pas quelles sont les ambitions de la Chine à ce niveau-là. Moi, je me place plutôt du point de vue de en fait, des entreprises et de comment aujourd'hui, à l'heure où les marques deviennent un peu des ambassadeurs culturels, comment décoder. Tu parlais tout à l'heure du féminisme et de la question des femmes. Mmh. Ben, c'est vrai que c'est intéressant de voir aujourd'hui les différentes problématiques et comment des enjeux sociétaux se posent différemment en Chine, aux États-Unis, en France. Sur la question des femmes, par exemple, en France, aux États-Unis, bon, c'est un sujet qui est plus tellement sur le devant de la scène, moi j'ai l'impression. En France, c'était pas mal sur les égalités salariales. Aux US, c'était dans la mouvance MeToo, la masculinité toxique. En Chine, c'est intéressant de voir que on n'en est pas encore là, je dirais. On en est encore à des questions d'indépendance de la femme. Il y a un énorme regain, c'est intéressant. Il y a un énorme regain de féminisme en Chine. Et le sujet, le droit pour la femme de se marier plus tard, de prolonger ses études, de faire carrière. Et ça, c'est important de tenir compte de ces écarts, parce qu'on n'en est pas du tout au même niveau dans le combat féministe en Chine. Et ça passe, c'est assez flagrant si on regarde les séries télé chinoises, de voir ce leitmotiv de la femme sûre d'elle, qui va assez carriériste, l'homme est vraiment en fonction support. Alors qu'en France, si on regarde les séries télé, c'est plutôt la femme, elle n'en est pas là. La femme, elle veut work-life balance, elle veut avoir un métier qui a du sens, et on n'en est pas là. Et c'est intéressant de voir aussi comment les marques comprennent, raisonnent ou au contraire dissonnent complètement avec ces valeurs sociétales.
Mais en fait, d'un côté, tu dis quelque part que dans les séries, ou alors j'ai pas compris, mais que dans les séries chinoises, l'homme est fonction support, la femme est super sûre d'elle, etc. Mais dans la réalité, en fait, on est encore dans une situation où la femme se bat pour pouvoir se marier plus tard, alors qu'en France, et le sujet, il est complètement encore ouvert. On a eu dernièrement, au mois de septembre en tout cas, tout un débat autour du crop top, entre autres, mais en fait, le débat, il n'est pas du tout fini ici. Des séries où la femme, elle est beaucoup plus dans une recherche de, en tout cas dans les séries, mais les séries ont un impact extrêmement fort dans les narratifs qu'on raconte, évidemment. Elle en est encore à trouver un équilibre, alors qu'en réalité, elle est beaucoup plus libérée, dans ce que je comprends, de ce que tu dis, qu'en Chine.
Alors non, bah, y a bien sûr un écart entre les représentations et les réalités sociales. La Chine, si tu regardes l'index parité homme-femme, la condition de la femme, la Chine est très mal classée par rapport à la France, qui est dans les premiers, dans le top 10, je crois. Donc non. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique. Et je pense qu'en Chine, il y a un rapport à la femme très particulier, parce que la politique de l'enfant unique. Donc c'est vrai que les femmes ont été relativement investies par rapport à d'autres pays comme asiatiques, comme le Japon ou la Corée. Où là la condition des femmes est vraiment en arrière, et puis surtout il y a eu la révolution culturelle, Donc, la révolution culturelle, c'est la femme égale de l'homme. C'est toutes ces représentations pendant la période maoïste de femmes au combat, de femmes qui conduisent des tracteurs, qui réparent les pylônes électriques, et ça, et qui surtout qui s'habillent comme l'homme. Il y avait déjà voilà une espèce d'androgynisation de la femme. Et je pense que la femme en Chine a mis beaucoup de temps et encore dans le processus de reconquérir les apparats de la féminité. Donc c'est très particulier la féminité, enfin, au-delà du féminisme, hein, mais le thème de la féminité en Chine. Mais oui, bien sûr, il y a un retard. Aujourd'hui, la femme n'est pas du tout libérée en Chine.
D'accord. Il y a d'autres sujets, évidemment. Je pense entre autres, parce qu'un certain nombre de marques, pour le coup, globales, ont scandé, par exemple, Black Lives Matter un peu partout dans le monde, sauf que typiquement, la position des Noirs en Chine, elle est vraiment très différente. C'est quoi le rapport, alors je ne sais pas si le terme est le bon, aux races, parce que je déteste ce terme dans le sens où il n'y a qu'une seule race humaine, mais c'est le terme qu'on utilise de manière sociale, on va dire. C'est quoi le rapport en Chine par rapport aux États-Unis, par exemple?
Ben, la grande différence, c'est que les États-Unis sont un pays multiracial, hein. C'est où y a les Blancs vont devenir une minorité. Enfin, il y a énormément de minorités. Et d'ailleurs, le thème de la race et des inégalités raciales est au cœur de la société, encore plus aujourd'hui avec Black Lives Matter, mais je veux dire, depuis les années 60, c'est le sujet sociétal numéro un. D'ailleurs, qu'adressent particulièrement les entreprises. Alors qu'en Chine, la Chine, c'est un pays monoracial. Il y a 91% de Han, avec très peu d'étrangers. Donc les Chinois sont très peu exposés à des races différentes. Donc la question du racisme, elle ne se pose pas en ces termes. Et d'ailleurs, les Noirs qui vivent en Chine sont des Noirs qui viennent commercer avec la Chine. Donc il n'y a pas du tout ce stigma des descendants de l'esclavage qui cumulent les discriminations, etc. Et la question du racisme en Chine, elle se pose en d'autres termes. C'est plutôt la question du racisme anti-chinois. Et de plus en plus avec la crise du Covid, les Chinois sont terrorisés par le regain de China bashing et du racisme anti-chinois à l'étranger, notamment aux US. Et la question de la sous-représentation des Asiatiques par les marques occidentales. Ça aussi, c'est un gros sujet, parce que la Chine est inondée de publicité, enfin de communication des marques occidentales, qu'elles adorent d'ailleurs toujours, mais elles sont de plus en plus gênées par le fait que ces marques restent très occidentalocentrées et représentent peu ou représentent mal les Chinois.
C'est-à-dire ?
Si tu prends par exemple le secteur de la mode, il y a encore énormément de marques aujourd'hui, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chine est leur premier marché, qui vont représenter que des Blancs dans des défilés. Bon, il y a eu quelques scandales là, récemment. Donc ça, ou alors quand je dis représente mal les Chinois, c'est-à-dire les représente à travers des stéréotypes. Si on regarde les critères de beauté, alors je pense à un exemple très, très marquant qui était la campagne de Zara l'année dernière, qui s'appelait Beauty is Here. Et donc, ils ont représenté, donc la marque espagnole représente une Chinoise, une femme chinoise, un mannequin, qui a des taches de rousseur. Et donc, cette personne était censée incarner la beauté. Sauf que pour les Chinois, donc il y a eu un énorme backlash. Je crois qu'il y a eu 500 millions de posts négatifs en Chine, parce que ça va très vite en Chine avec il y a une question des Chinois et les réseaux sociaux. Donc, backlash total parce que ça heurtait complètement la conception de la beauté pour les Chinois. Parce que en Chine, les critères de beauté sont liés à la perfection du teint. Le concept de beauté en Chine est lié directement à l'idée de la santé. Que la beauté, c'est le reflet du bon fonctionnement du corps à l'intérieur, la circulation, du sang, des énergies, etc. Donc la tache, c'est vraiment la marque d'une maladie. Donc c'est antagoniste à l'idée de beauté. Et d'ailleurs, même dans les tendances, on le voit même chez les hommes, ce qu'on appelle les little fresh meat, là, ces jeunes hommes prépubescents qui incarnent aujourd'hui la beauté masculine en Chine, se caractérisent par leur teint glabre, parfait.
De porcelaine.
Ouais, exactement, de porcelaine. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit le glissement d'une dissonance esthétique à un problème politique. Et la Chine, parce que les Chinois, c'est pas juste « Ah bon, on la trouve moche ». Non, c'est vous insultez, vous, marque occidentale, vous insultez la Chine parce que vous nous représentez en nous, en les dissant. Donc, c'était hashtag « Uglifying Chinese qui a circulé en masse.
Ah, waouh. Et alors, tu parlais de racisme, mais il y a... En Chine, on ne peut pas ignorer. Et dernièrement, on a eu le sujet qui est arrivé des Ouïghours, qui est un sujet qui existe depuis un petit moment, concrètement, dont les Européens, les Occidentaux n'ont pas trop entendu parler, ils n'ont pas voulu trop s'intéresser à la question. Et en même temps, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité, c'est les Ouïghours. Comment ils gèrent ça? Parce qu'il y a une forme de racisme. Alors, je ne sais pas si c'est du racisme. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a un rejet, en tout cas.
En Chine, tu sais, il y a une censure. Hein, donc, on ne parle pas
oui, bien sûr.
Du thème des Ouïghours. Tout est censuré sur Internet. Donc, on ne trouvera rien, aucune discussion là-dessus. En revanche, oui, alors il y a eu énormément de problèmes de la part des marques. Il y a énormément de marques, d'entreprises qui, par exemple, sur leur site Internet, vont mentionner le Tibet. Ou Hong Kong, Macao, Taïwan, comme des pays séparés de la Chine. Donc là, énorme backlash en Chine, mais non seulement par le gouvernement chinois qui dit « mais vous incitez, vous soutenez les mouvements séparatistes, etc. » pour la question du Tibet dont tu parlais, mais aussi des backlashes de citoyens chinois. Donc c'est-à-dire pour eux, c'est une insulte que des Occidentaux se mêlent de leurs problèmes de politique intérieure. Et la question de l'harmonie au plan national et de l'absence de division, elle est fondamentale, elle est vraiment ancrée dans la mentalité chinoise. Il faut pas encore une fois, c'est pas aux étrangers de critiquer la politique intérieure chinoise. Je me souviens du site de, enfin c'était il y a 2 ans, c'était Marriott hein, qui avait mentionné le Tibet, mais ils avaient même viré un employé qui avait liké un tweet qui soutenait le mouvement séparatiste tibétain. Enfin ça prend des emplois. Ils avaient fermé, la Chine avait obligé Marriott à fermer le site web de l'entreprise. Et il y a aussi des problèmes d'ambassadeurs de marque. Il y a des marques, notamment des marques de luxe, qui sans faire attention. Choisissait des ambassadeurs qui avaient dit, qui avaient soutenu le Tibet ou le Dalai Lama il y a 5 ans, et ça crée des backlash monstrueux sur les réseaux sociaux en Chine et des appels au boycott.
Mais c'est le gouvernement qui appelle au boycott ou c'est les citoyens?
C'est les deux. C'est ça qui est intéressant. C'est les deux. Parce que, encore une fois, pour les citoyens, c'est une marque de condescendance. Et je pense qu'il y a une hypersensibilité en Chine. Je pense que l'héritage de la blessure narcissique, l'héritage des guerres de l'opium, le fait que je pense que la Chine, c'était l'empire du milieu, c'était le centre du monde pendant des millénaires. Il faut bien comprendre qu'en 100 ans, ils sont passés de « on est le centre du monde » à « waouh, on a 200 ans de retard, on a l'Occident qui a une avance technologique, scientifique sur nous ». Et il y a eu cette espèce d'obsession pendant 100 ans du rattrapage avec l'Occident. Et donc, il y a une humiliation très fort de la Chine. Et aujourd'hui, on en est encore là. Et aujourd'hui, c'est plus la problématique du rattrapage, c'est la problématique du dépassement de l'Occident, poussé par le gouvernement. Mais c'est aussi, c'est aux deux niveaux. C'est le gouvernement chinois, mais c'est aussi les citoyens chinois. Et donc, tout est passé à ce prisme-là. Et aujourd'hui, quand un occidental, une marque occidentale communique en Chine, il faut bien avoir ce biais et se dire, attention, il y a une hypersensibilité sur ces sujets.
Et alors... Un sujet qui semble assez évident, et on ne l'a pas touché tout de suite, mais c'est évidemment la dictature. Mais aussi, avec la dictature, les données personnelles. En France, on a tendance à regarder ça, ce qui se passe en Chine, tu sais, en particulier le fait qu'on donne
la notation sociale.
Voilà, déjà, pardon, excuse-moi, la notation sociale, nous, ça nous fait horreur. Et en même temps, ce qu'on lit sur les Chinois, c'est qu'en fait, ils trouvent que c'est plutôt pas mal parce qu'il y a moins d'incivilité, finalement. Et ça, c'est sans doute un rapport différent à par rapport à la vie privée, non ?
Ouais, alors moi, je mettrais quand même des pincettes à ce que tu dis, parce qu'encore une fois, il y a la question de la censure. Et je pense que la parole n'est pas libre en Chine sur ces sujets. Et donc, tout ce qui nous remonte, en fait, il n'y a pas grand-chose qui nous remonte sur ce que pense. Je te mets au défi de trouver des études, des enquêtes sociologiques qui vont parler de la perception de la notation chinoise par les Chinois. Et de l'autre côté, il y a un biais aussi, parce qu'il y a énormément de China bashing. Donc, si on lit toute la presse sur la Chine, on va dire « Oui, la Chine est leader, devient leader en intelligence artificielle, l'essor des smart cities, etc. Mais regardez, c'est Big Brother, la vidéosurveillance qui explose en Chine. Ils sont en train de... Voilà, c'est George Orwell, quoi. » Et donc, je pense qu'il faut un peu trouver le juste milieu. Je pense qu'en Chine, il faut avoir en tête que c'est un pays aux valeurs collectives. Donc, l'individu a moins... Enfin, la question de la liberté individuelle, elle est très occidentale et elle a été importée. Aujourd'hui, elle a conquis la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse chinoise, elle est imprégnée de ces valeurs occidentales de liberté d'expression, de liberté individuelle. Mais on est un petit peu entre les deux. La Chine, c'est toujours un mélange. Hein, et il y a quand même un héritage de valeurs collectivistes très fort. Et il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de mouvement de rébellion en Chine contre ces problèmes de surveillance et de notation sociale, parce qu'il y a une grande croyance dans le progrès de la Chine, que la Chine est en train de d'émerger comme première puissance mondiale, et donc tout ça se mélange. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a, on observe quand même pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en Chine la culture du streetwear est si populaire. Bah, c'est parce que c'est un moyen politiquement correct pour les Chinois d'exprimer une forme de liberté individuelle. C'est parce que la rébellion n'est pas possible en Chine.
Oui, d'accord. C'est hyper intéressant de voir. Et tu parlais d'individualisme versus collectivisme. C'est hyper intéressant de voir qu'en Occident, on est en train justement de sortir, je crois. Enfin, moi, je crois que une tendance un peu haute, c'est qu'on est en train de sortir de cet individualisme forcené qui nous a rendus très malheureux les uns et les autres, finalement. Et que finalement, on va, nous, alors que eux, enfin, quelque part, le modèle occidental, il a quand même fonctionné en Chine, ce que tu décris. Donc, ils vont vers cet individualisme. Et nous, on essaie d'en sortir. Donc, en fait, ça va, peut-être qu'on va trouver un terrain d'entente à cet endroit où, en fait, en Chine, ils vont amener une forme de collectivisme. Et peut-être que nous, on va y aller d'une certaine manière aussi. Alors, certainement pas dans des proportions comme celles qu'on a connues, comme celles qu'on connaît d'ailleurs toujours en Chine, mais peut-être qu'on va trouver un terrain d'entente entre guillemets à cet endroit-là, non ?
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression que la France, elle est un petit peu entre les deux, entre deux modèles différents. Donc, il y a la Chine, voilà, modèle collectiviste, en gros, on ferme sa gueule, et les États-Unis de l'autre côté. Où et je pense que les États-Unis font peur à cet égard aux Français. C'est l'inverse. C'est la prise de parole individuelle qui est toute puissante. On le voit à travers la cancel culture, tu vois. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Donc, premier amendement, liberté d'expression. Et en fait, si tu regardes l'appareil législatif aux États-Unis, t'as rien qui vient balancer, contrebalancer cette liberté d'expression. Donc, à part, sauf sur les insultes à la les incitations à la pédophilie, mais en gros, tu peux dire tout ce que tu veux aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que de plus en plus, enfin, depuis les années 60, hein, le cancel culture, c'est des citoyens, et là, ça explose avec les réseaux sociaux, dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas politiquement correct, c'est pour la bonne cause, hein, c'est quelque chose, un propos raciste ou sexiste ou homophobe, etc., et ben, il va y avoir tout un mouvement de citoyens qui vont boycotter, qui vont appeler au boycott et qui vont, ils vont permettre, par exemple, là, récemment, il y a Roseanne Barr, hein, qui était une actrice, qui est connue pour être raciste, hein, donc c'est très bien. Elle a publié un tweet raciste, elle a dû, sous la pression des internautes, elle s'est faite virer par Disney du jour au lendemain. C'est les citoyens qui s'érigent en tribunal populaire. Mais encore une fois, pour la bonne cause, mais...
Alors là, du coup, on va passer sur la culture américaine, mais est-ce que ça n'a pas des impacts, j'ai envie de dire, négatifs, où on voit, par exemple, des femmes, je pense à Christine Lagarde, mais il y en a d'autres, qui ne peuvent plus donner de conférences en université parce que ça heurte un peu la sensibilité de certaines personnes et que du coup, ils ne veulent plus, ou j'ai entendu des profs de droit qui n'ont plus le droit de prononcer le mot viol quand ils parlent de viol aux États-Unis, parce que ça pourrait heurter la sensibilité. Ça peut penser d'ailleurs malheureusement à l'assassinat qui a eu lieu dans cette école française. Voilà, et où il a montré une caricature, et parce qu'il a montré cette caricature, alors il a été assassiné. Alors, bien sûr, aux États-Unis, on n'en est pas à l'assassinat des professeurs, mais on est simplement dans une forme de censure où elles ont, enfin, ces personnes-là n'ont plus le droit de venir donner cours, par exemple, ou n'ont plus le droit de prononcer le mot viol, ou, enfin, voilà, on en arrive à des situations qui sont un petit peu étranges, quelque part. Mais là, on parle des États-Unis, on parle plus vraiment de la Chine, ouais. Mais c'est pas grave, parce que je trouve que c'est le parallèle qui est intéressant.
Mais ouais, non, mais c'est ce que tu fais référence aux trigger warnings. En fait, effectivement, la spécificité de la jeune génération américaine et qui est née avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une hypersensibilité à tout ce qui n'est pas, à tout ce qui est opinion autre. Parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux, chacun est habitué à être confronté à ses propres idées. On t'abreuve de news qui confortent tes idées, etc. Et du coup, on ne supporte plus d'être exposé à, ouais, encore une fois, à d'autres idées. C'est le phénomène qui s'appelle. Il y a un bouquin qui est un best-seller aux États-Unis qui s'appelle The Coddling of the American Mind, et il parle de ça. Du fait qu'on peut plus rien dire parce que la jeune génération a été élevée dans du coton. C'est assez. Je pense que du point de vue français, c'est assez choquant. Et ça va de pair avec le phénomène d'appropriation. Parce qu'on crée toujours aux États-Unis à l'appropriation culturelle. Là, il y a un bouquin qui vient de paraître il y a quelques mois sur les migrants. Les migrants qui s'appellent American Dirt, l'histoire d'une mère et de son fils migrant mexicain qui traverse le mur, etc., et qui était complètement rejeté par la population latino parce que l'autrice hein, est blanche. Et ça c'est extrêmement fort, et il y a il y a des impacts très forts aussi au niveau des entreprises. Donc je pensais à cette c'est une campagne de Dior l'année dernière pour Eau Sauvage. Et c'est intéressant parce que donc c'est une campagne. Ils avaient lancé une vidéo avec Johnny Depp dans le désert qui joue un air de rock avec un Indien qui danse avec ses plumes, etc. Et alors la backlash totale aux États-Unis parce que le parfum, la traduction de Eau Sauvage en anglais, c'est Savage. Et Savage, c'est le terme néocolonial.
Ah, waouh!
Bah oui.
Ouais, par définition, ouais.
Ouais, c'était les colons anglais utilisaient ce terme. D'ailleurs, dans Pocahontas, c'est le terme qu'ils utilisent pour parler des c'est primitif, en fait. C'est le mot qui veut dire primitif. Donc, énorme backlash. Alors que l'intention de la marque, c'était au contraire de revaloriser la culture amérindienne, etc. Et ça, mais c'est extrêmement représentatif de. Et je pourrais t'en citer 50 des exemples comme ça. Et ça, c'est l'équivalent, pour boucler avec la Chine, c'est l'équivalent de la sensibilité à « Ah, vous ne tenez pas compte de notre culture, de nos valeurs, de nos critères de beauté. » Et bien, aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est à l'intérieur, c'est « Vous ne tenez pas compte, vous vous appropriez telle culture, de quel droit représentez-vous des Indiens, vous, marque française ?»
Et alors, un élément dont on n'a pas parlé, c'est l'écologie. Je crois que... Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le rapport, par exemple, au bien-être animal, il est très différent en Chine de ce qu'il peut être en Occident. Est-ce qu'il y a d'autres choses et d'ailleurs, tu peux d'abord valider ou invalider ce que je raconte, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont vraiment très différents? Parce qu'on est en train de d'ériger la Chine comme un leader sur l'écologie de manière assez... étonnante, parce qu'on a toujours critiqué la Chine pour sa pollution. Comment toi, tu vois ça?
Je trouve que si on regarde de près au niveau de la conscience des citoyens, des gens, il y a des niveaux de sensibilité très, très différents sur l'environnement. Si on regarde la France, la Chine... En France, on est clairement... très, très, très en avance, tu vois, au niveau législatif, tu vois, la loi Pacte, toutes les entreprises s'y mettent, ont trouvé leur raison d'être, au niveau de... l'écologie, elle est complètement ancrée dans les mentalités et dans le quotidien. Il y a du vrac dans les supermarchés.
Dans les fers, hein,
ouais, bon, pas... Oui, mais toi, t'as l'impression que c'est pas beaucoup, mais c'est énorme si tu regardes, si tu compares avec d'autres pays. Tu vois, tu lis Elle ou des magazines de mode, on met en valeur que les marques éco-friendly. T'as l'essor du marché de l'occasion, les fringues d'occasion. C'est C'est vraiment, c'est une idéologie, l'écologie. C'est vraiment, c'est une valeur et qui a un impact concret sur le quotidien des Français. Si tu regardes en Chine, la question de l'écologie, elle est un peu, c'est comme aux États-Unis, elle est un peu métaphysique. C'est un petit peu abstrait. Les Chinois, c'est comme les Américains, ils sont hyper pragmatiques. Donc les Chinois, ils sont hyper conscients d'un problème qui est celui de la pollution. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont confrontés dans leur quotidien à la question de la pollution dans les grandes villes. À Shanghai, t'envoies pas tes gosses à l'école 2 jours par mois parce qu'il y a des pics de pollution. Donc c'est extrêmement concret. Il y a eu énormément de scandales liés à la food safety, la sécurité alimentaire, le lait avarié, etc. Donc il y a une... Et dans la culture chinoise, je pense qu'il y a une obsession, et c'est lié, je pense, à la médecine traditionnelle chinoise, à tout ce que tu ingères dans ton corps. Il y a une obsession de la pollution, mais aussi de la pollution des écrans, de ce que tu te mets sur la peau. D'où l'importance, d'ailleurs, je pense que tout ce qui est clean beauty va exploser en Chine pour ces raisons-là. Mais c'est très concret et c'est à l'échelle individuelle. C'est pas de se dire protégeons les générations futures, il y a le réchauffement climatique. Non, non, non. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le réchauffement climatique, il y a énormément de négationnistes du réchauffement climatique. Et d'ailleurs, c'est devenu un problème politique. C'est une question politique, l'environnement aux États-Unis. C'est les républicains disent non, 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 economy first. Et je pense que dans la culture américaine, qui est fondée, enfin, le capitalisme et l'économie restent une valeur fondamentale et plus importante. Je pense que la question sociale de créer des emplois reste majeure aux US. D'ailleurs, même Joe Biden, si tu regardes, il a dit qu'il n'arrêterait pas le gaz de schiste et on va continuer à forer la terre parce que c'est l'idéologie de la mine, des travailleurs. C'est presque patriotique.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. On n'est pas sorti de l'affaire. Sur cette question écologique, malheureusement, on rigole, c'est pas très rigolo.
Il y a de la marge.
Mais on n'est pas sorti d'affaire. Ouais, non, mais il y a encore de la marge. Mais en Chine, du coup, ils ont ce pragmatisme, donc du coup, et ils ont aussi, alors l'avantage de la dictature, c'est que quand même, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, ils prennent parfois des décisions radicales, par exemple, interdiction des scooters à essence dans Shanghai, ça s'est fait du jour au lendemain quasiment, et accompagné par l'État. Et voilà, parfois ils prennent des décisions un peu radicales qu'ils arrivent à mettre en place. En fait, c'est ça. Ça, c'est aussi une grosse différence peut-être entre la Chine et l'Occident. Il n'y a pas de discussion possible des citoyens en réalité.
Mais c'est ce qui fera avancer la Chine certainement plus vite que les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, dire à un Américain de ne pas prendre sa voiture, il le fera pas. Il y a pas de, c'est comme le recyclage, le gâchis alimentaire, tout ça, c'est des problèmes. Les Américains, ils ont du mal à en faire moins ou à se retirer quelque chose, à sacrifier quelque chose de leur. En revanche, on pourra leur dire acheter des voitures électriques. Là, on le voit avec Tesla, mais on leur dira pas de renoncer à quelque chose pour protéger l'environnement. Ça, c'est pas dans la mentalité.
Ouais. En fait, on en revient à la problématique individualisme versus collectivisme.
Exactement.
Quelque part.
Ouais. Bah, voilà, les États-Unis, c'est valeur individualiste au cube.
200%. est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont vraiment différents culturellement en Chine que j'ai pas abordé? Il doit y en avoir, mais...
Il y en a énormément, mais moi, il y a juste un exemple que j'aurais voulu mentionner, c'est qui boucle un peu sur la question du racisme et des problèmes de dissonance sur les rapports de la beauté, etc. C'est un exemple très frappant sur la question du whitening. Tu sais, les produits de whitening pour blanchir la peau. Et là, avec Black Lives Matter, il y avait eu ce backlash, cette déclaration de L'Oréal de dire, alors non pas on va arrêter de commercialiser les produits de blanchiment de la peau, mais
ils en vendent énormément.
Ouais, c'est énorme, c'est un marché énorme en Asie. Mais de dire, on va arrêter d'associer le mot blanc à joli, c'était fair, on va arrêter de dire, de relier fair and lovely à white. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que donc, c'est très consensuel aux États-Unis de dire bah, bien sûr, white supremacist, quelle horreur, vous promouvez la peau blanche, etc., comme critère ultime de beauté. En Chine, c'était mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que vous nous traitez de racistes parce que pour nous, la blancheur, c'est un critère ultime de beauté. Enfin, il y a eu vraiment un contresens total sur cette question, parce que en Chine, la blancheur, c'est un critère de beauté qui est vieux de plus de 2000 ans. Ça date de la dynastie Han. C'est comme si, tu vois, en France, on a inversé les codes. En Chine, comme en Occident, la blancheur, c'est un signe de statut social. Ok. Sauf que en France, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les congés payés et le Front populaire dans les années 30, ce qui est devenu le marqueur social, c'est de partir en vacances et de bronzer. Donc, on a inversé les codes. Mais en Chine, ce glissement, c'est pas fait. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi cette obsession de la protection envers les agressions extérieures. Donc, les femmes, en Chine, elles mettent aussi elles utilisent ces produits aussi pour se protéger du soleil. Et du coup, ça montre, je trouve que cet exemple-là, il montre à quel point on a un point de vue universaliste et on va plaquer des valeurs qu'on croit universelles au lieu de détourner un peu le regard et se dire comment c'est perçu de l'autre côté de la planète. Et je trouve que ces exemples sont vraiment révélateurs de l'effort qu'on a tous à faire pour se décentrer de nous-mêmes et changer de point de vue, quoi. C'est un peu faire la révolution copernicienne.
Ouais, on parle un peu des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'en fait, le principe même du biais cognitif, c'est que tu ne sais même pas que tu l'as. Et effectivement, ce rapport à la peau blanche, il est très, très différent. Mais au Maghreb, ça peut être le cas aussi. Enfin, en fait, ils n'ont pas spécialement envie de bronzer, majoritairement. Parce qu'en fait, bronzer, c'est les paysans. Enfin, donc, c'est pas du tout bien vu. Et en Chine, j'imagine que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui bronzent, c'est ceux qui travaillent dans les champs, en réalité. Donc, naturellement, t'as pas du tout envie d'avoir la peau bronzée quand t'es en Chine. Et peut-être qu'on peut aussi parler du rapport entre les différents pays asiatiques, parce que on parle beaucoup de la Chine, mais on parle aussi beaucoup du Japon et du rapport entre le Japon et la Chine. On parle un peu moins de la Corée du Sud, et pourtant la Corée du Sud, elle a un impact extrêmement fort, en particulier au niveau de la mode, en tout cas, je crois, sur tout le reste de l'Asie. Comment ça fonctionne et comment ça évolue? Je sais pas si tu sais comment ça évolue, mais moi, je trouve ça super intéressant.
Il y a énormément d'influences, et c'est vrai que du point de vue occidental, on parle de la Chine, mais en fait c'est un peu, comme je te disais, c'est un peu le continent noir, l'Asie, tout ça c'est assez flou, et en fait on néglige toujours, on croit que l'Occident est le seul à influencer les tendances en Chine, alors qu'en fait si on regarde à la loupe, la Corée est extrêmement, a une énorme influence sur la Chine. On le voit par exemple sur les représentations des masculinités. En Chine, tout ce mouvement ce qu'on appelle les little fresh meat, donc tout cette représentation d'une masculinité prépubescente, assez féminine, hein, de notre point de vue, elle est héritée. Bon, bien sûr, elle est héritée d'un concept de masculinité en Chine qui est moins lié à la virilité, la force physique traditionnellement en Chine, mais elle est aussi liée à l'influence de la Corée sur les Flower Boys, et qui vient aussi d'ailleurs du Japon. Donc c'est intéressant de comprendre ces influences asiatiques.
Mais alors, c'est marrant ce que tu dis sur, on va revenir sur le sujet du féminisme, parce qu'en fait, la Chine, ça reste une société hyper patriarcale, et c'est vrai, t'as raison, il n'y a pas ce rapport, en fait, il n'y a pas cette association, ou en tout cas, et la manière dont tu décris ces jeunes garçons, quasiment est faible, en fait, en Chine, qui sont très à la mode. Ils n'ont pas du tout ces codes virilistes. Et pourtant, le patriarcat est extrêmement fort en Chine. Il est toujours très présent, comme il est présent très fort au Japon. Alors, je connais moins la situation en Corée, mais...
Ouais, il est. Oui, alors ça dépend où, parce qu'à Shanghai, c'est plutôt matriarcat. Mais t'as raison, ça reste encore très confucéen. Donc la domination de la femme, de l'homme sur la femme, ça reste très ancré dans la. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Mais ça s'explique. Tu vois, je pense qu'effectivement, traditionnellement, en Chine, la masculinité, elle est fondée sur deux piliers. C'est Wen et Wu. C'est pas seulement la bravoure, le courage, etc. C'est aussi une forme de culture, de raffinement, de sophistication, de spiritualité. Alors que si tu regardes, par exemple, l'opposé, c'est les États-Unis, où tu vois, avec la culture du super-héros, une culture très forte de la violence, et puis la mythologie du pionnier, de la conquête de l'Ouest. Ouais, c'est ça. Il y a une virilité qui est fondée sur la force physique et la bravoure. C'est un peu le concept, d'ailleurs, occidental, qui est hérité des Romains, en fait. Mais du coup, ça fait qu'on a un écart très très grand dans les représentations des masculinités en Orient et en Occident.
Et alors, du coup, ça serait quoi la masculinité en Orient? Comment on la décrirait? Enfin, c'est quoi l'homme, quoi? Enfin, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça.
Non, mais c'est difficile d'essentialiser, mais parce qu'il y a toute une typologie des représentations. Mais aujourd'hui, si tu veux, il y a quelque chose de très particulier dans les représentations de la masculinité en Chine, c'est que la Chine, c'est une chi-économie. Donc, si tu regardes tout, les séries télé, la publicité, cette tendance des Little Fresh Meat, donc d'une efféminisation de l'homme, elle est massive. Pourquoi? Parce que les représentations de la masculinité en Chine se font à travers le regard de la femme. Donc c'est toute la projection du boyfriend qui va être hypersensible, qui est innocent, qui ressemble à un petit poupon. Alors après, il y a des variantes. Hein. Il y a aussi celui qui est un peu plus bad boy, mais qui est aussi prépubescent et glabre et sans poils, etc. voilà, c'est ça, c'est l'homme vu à travers le regard de la femme. Alors que aux États-Unis, si tu regardes, je sais pas, le top 10 des acteurs masculins les plus populaires, bah ça reste des Leonardo DiCaprio, des mecs, des vrais mecs, quoi, entre guillemets, avec des poils assez musculeux, assez carrés, et qui incarnent des rôles de super-héros, Iron Man, etc. C'est pas du tout le cas. Si tu regardes les nouveaux héros masculins dans les séries chinoises, il y a toute une tendance où le petit copain, la femme, joue le rôle de grande sœur dans le couple. L'homme est plus jeune et la femme est celle qui domine un petit peu. Et c'est hyper intéressant d'observer ça. Je pense que ça n'a pas d'équivalent en Occident.
Non, pas que je connaisse. C'est vrai que c'est assez fou parce que, en fait, on l'envisage pas du tout comme ça. On voit bien, tu vois, les boys band asiatiques, à commencer par la Corée, ce que tu disais tout à l'heure, Corée du Sud, pas Corée du Nord. mais sinon, c'est vrai qu'on a une mauvaise compréhension. Alors peut-être. Parce que, moi, je ne travaille pas avec la Chine, hein, donc je ne me suis pas intéressé de manière très spécifique, un petit peu forcément, parce que tu vois bien que c'est un sujet que je connais un minimum, mais pas non plus de manière très, très, très avancée. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette vision-là de la culture chinoise, et on pourrait arriver avec du Schwarzenegger, pour la référence de vieux, de l'homme très musculeux, très dominant, alors qu'en fait, en Chine, ça n'a aucun sens.
Bah non. Enfin, et d'ailleurs, c'est marrant parce que la propagande chinoise, aujourd'hui, il y a des films poussés et financés par le gouvernement chinois avec des super-héros et qui sont des films hyper patriotiques. Et je me demande, tu vois, j'ai aucun chiffre pour te dire si ces films sont populaires, soi-disant premiers au box-office, mais je suis pas sûre que ça marche tant que ça. Je
sais
pas.
C'est le cas. Hyper intéressant. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte.
Eh ben, je voudrais claquer la porte à l'occidentalocentrisme et à la méconnaissance des autres cultures.
Voilà. Ouais, non, mais c'est tellement logique en fait, et quelque part ça va avoir tellement d'impact. Et même, on n'a pas vraiment parlé de business, mais comparé par exemple Jack Ma et Jeff Bezos. C'est hyper intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision. Pardon, je te relance sur un autre sujet.
On finira jamais ce podcast.